Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Abosuma.
C'est déjà demain le couvre-feu décidé par le chef de l'État dans toute la RDC. Cependant, des cérémonies de mariage et autres programmées pour ce week-end avec des invitations déjà lancées, que faire? La question reste posée. Le calme est revenu hier à Komanda Centre en Ituri. C'est après l'attaque des hommes armés très tôt le matin dans un quartier de Komanda. Bilan 9 morts, dont 8 assaillants et un militaire des FARDC décédé. Et puis, initier les femmes à participer à la gouvernance de leurs entités respectives. Des femmes membres des partis politiques et de la société civile ont été outillées dans ce sens cette semaine à Butembo. Pour en parler, nous recevons Maître Cathy Foura, cadre de la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Madame, Messieurs, bonjour. Vous le savez, le gouvernement congolais a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des mesures qui entrent en application dès demain vendredi. C'est notamment le couvre-feu et les vacances scolaires anticipées. Bien que salutaires, cette mesure n'est pas sans conséquences. À Lubumbashi, par exemple, Jean Gandou nous en parle.
Sur le plan scolaire, par exemple, les élèves du primaire passent déjà leurs examens. Du coup, ils sont obligés de tout arrêter. Qu'adviendra-t-il de la suite, se demande un directeur d'école, car à l'allure où vont les choses, le calendrier scolaire pourrait ne pas être respecté. On ne sait toujours pas si, au retour des vacances, la pandémie aura ralenti sa vitesse, renchérit-il. Pour la plupart des personnes contactées, au sujet des mesures prises par les autorités, décréter un couvre-feu pour lutter contre la COVID-19 est une bonne chose. Mais, sur le terrain, les conséquences sont tout autres. La grande inconnu, c'est le comportement des hommes en uniforme qui seront déployés sur le terrain pour faire respecter cette mesure. La plupart redoutent la multiplication des cas de tracasserie et d'extorsion des biens. Les autorités provinciales promettent de rendre publiques les mesures d'encadrement dans les prochaines heures. Entre-temps, les organisateurs des cérémonies de mariage et autres programmés pour ce week-end, qui avaient déjà lancé des invitations, se trouvent coincés et ne savent que faire. Ils sont donc obligés de ne réunir que 10 personnes selon les recommandations des autorités. En pareille circonstance, que faire, c'est demander et la question reste posée. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et ici à Kinshasa, qu'en pensent les Kinois du couvre-feu décrété par le chef de l'État sur l'ensemble du pays? Certains sont d'accord, mais d'autres évoquent les problèmes d'embouteillage qui peuvent surprendre la population avant d'arriver chez elle. Suivez plutôt quelques avis recueillis par Paul Matendo.
Ils voient que leur intérêt et pas nous de la population. Et prenez le cas des décès qui sont à Tchango, comme nous là. Et de quitter à Tchango pour venir au grand marché, ça nous prend au moins 3 heures du temps ou 2 heures du temps pour de route. On commence le travail à 8 heures jusqu'à 15 heures. De quitter au grand marché et rentrer à Tchango. Là, c'est donner la priorité aux policiers.
Pour nous pensons que le chef de l'État a bien fait, mais malheureusement qu'il a choisi le temps difficile pour nous. Parce que ces derniers temps ici, vous le savez très bien que nous avons nous sommes dans le temps que nous préparons le fête.
Il y a de ceux-là qui se plaignent par rapport aux embouteillages, aux sautes montants et tout. Mais moi, en tant qu'interprète de sourds, je me dis que la communication n'a pas vraiment atteint la communauté sourde. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que vraiment le couvre-feu.
Entre-temps, au Sud Kivu, la situation de la maladie de Covid-19 n'est pas très alarmante, mais préoccupante. D'après les autorités sanitaires, cette province enregistre à ce jour 26 cas positifs en cours de traitement dans 13 zones de santé touchées. Le ministre provincial de la Santé, qui donne ce chiffre, dit appuyer les nouvelles mesures prises au niveau national et appelle la population du Sud Kivu à s'y conformer. Le ministre Cosmos Bichicha est au micro de Rachel Kiesse.
À ces jours, nous avons 376 cas confirmés de la COVID au Sud Kivu, dont 299 guéris et 26 sous traitement aujourd'hui. Nous avons perdu 51 compatriotes. Pour l'instant, 13 zones de santé sont touchées par la COVID-19, mais l'épicentre reste la ville de Bukavu, qui elle-même compte 307 cas confirmés. Les zones de santé touchées sont Nyantende, Mitimoresa, Kitutu, Katana, Kabare, Fizi, Shabunda, Lemera, Uvira et Nyangezi. Sur le 376 cas confirmés, il y a 275 hommes et 101 femmes. Vu l'évolution actuelle au Sud Kivu, la situation n'est pas très alarmante, même si elle reste préoccupante. Donc, j'invite toute la population à être à l'abri des arrestations en respectant les différentes mesures prises qui sont très connues par la population du Sud Kivu à travers nos différentes communications.
Direction l'Ituri. Des affrontements ont opposé hier l'armée à la milice de la Force patriotique et intégrationniste de l'Ituri, FPIC, dans un quartier périphérique de Komanda, un centre commercial situé à 75 km au sud de Bunia, territoire d'Irumu. Le bilan fait état de 9 morts, dont 8 éléments de la FPIC et un militaire des FARDC. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, les forces loyalistes ont réussi à faire échec à ces rebelles qui voulaient s'emparer de cette cité et ces combats ont paralysé toutes les activités hier à Komanda. Martial Kiza, reportage.
Ce n'est qu'en début d'après-midi que le calme est revenu à Komanda Centre après l'attaque survenue très tôt matin dans la matinée des hommes armés identifiés aux éléments de la FPIC au quartier base. Selon des sources locales, ces rebelles ont d'abord incendié des maisons à Tindo, à environ 5 km au chef-lieu de la chefferie de Basili, avant de s'introduire au quartier base de Komanda. Les FARDC ont directement réagi à cette incursion. Selon les porte-parole de l'armée, Anitouri, les forces loyalistes ont réussi à neutraliser 8 assaillants du groupe armé FPIC au cours de ces combats qui ont duré une demi-journée. Un militaire de FARDC a également perdu la vie dans ces combats. Un autre de ses compagnons d'armes, lui aussi grièvement blessé, a été évacué hier en fin d'après-midi par des hélicoptères de la MONUSCO de Komanda à Bunia pour des soins appropriés. Les activités commerciales paralysées une bonne partie de la journée ont repris à milieu d'après-midi, tout comme les trafics entre Bunia et Beni. Bunia, Martial Kiza, Biamongo, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour signaler l'arrivée ce matin à Bunia du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix vient de Goma. Il est accompagné de la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui. Jean-Pierre Lacroix a été reçu par le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. Les deux personnalités ont passé en revue les défis sécuritaires de l'Ituri pour voir comment la mission onusienne, dont le mandat va être renouvelé dans les prochains jours, peut améliorer son appui aux autorités congolaises. Le diplomate onusien va se rendre ensuite à Roé, dans la chefferie de Baïma Nord, territoire de Djougou, épicentre des violences des groupes armés, d'après des sources sur place. Nord Kivu, le groupement Oussala dans le Walikale est vidé de ses habitants depuis plus d'une année maintenant. La région est entièrement ou presque sous occupation du groupe armé Front des Patriotes pour la Paix, FPP. Cette situation a été présentée hier à la délégation des autorités onusiennes et provinciales en mission conjointe à Pinga, le point avec Gabriel Ouaménia.
Le groupement Oussala est parmi les zones les plus affectées et les plus meurtries par les violences dans les territoires de Walikale. Depuis plus d'une année maintenant, tous les villages se sont vidés de leurs habitants. Une situation consécutive aux violences et autres actes d'atrocité commis par les combattants du Front des Patriotes pour la Paix FPP, dirigé par un général autoproclamé Kabidon. Les responsables coutumiers l'ont affirmé hier au gouverneur des provinces en présence du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Baroui Maseka.
Dans le groupement Oussala, toute la population, depuis le village de Rama, qui est le début du groupement Oussala, jusqu'à la fin du groupement Oussala, personne n'est dans le village à cause des affrontements, de la présence de la force de AFPP Kabido.
De son côté, le gouverneur Nzanzu Kasivita a rassuré ses interlocuteurs que les opérations militaires sont en cours dans les territoires de Walikale. Rappelons que la région d'Oussala est totalement inaccessible à cause de son enclavement. Pas de route et la population s'approvisionne en empruntant des sentiers. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Par ailleurs, plusieurs villages du territoire de Beni s'évident de leur population après des multiples attaques des rebelles ADF. La société civile de Beni craint la paupérisation de la population. Elle invite l'armée à s'adapter au mode opératoire de l'ennemi afin de mieux sécuriser la population civile. C'est Sekombi Katondolo.
C'est depuis le mois d'octobre dernier que les rebelles de l'ADF ont intensifié leurs attaques dans le secteur de Renzori, à l'est de la ville de Beni. Ici, le groupement Malambo n'est presque plus habité. C'est le cas du village Loulo, Mouloa, Alungupa, Kisima, Manzalao, Ntama, Kinyambaore, pour ne citer que cela. Au sud du territoire, sur le groupement Bouliki qui n'est pas en reste de ce mouvement de population. Plus au nord, dans le groupement de Banande Kainama, les villages de Moutido et quasi désert, et ici, les rebelles de l'ADF récoltent dans le champ de déplacés. Si la société civile locale dresse ces tableaux plutôt sombres de mouvements des populations qui vident leurs villages, elle indique cependant le retour progressif de certains déplacés dans leurs milliers. C'est le cas de Mamové à l'ouest d'Ouicha. En outre, elle craint que ces déplacements de population rendent ces derniers plus vulnérables. Par ailleurs, elle invite les FARDC à s'adapter à la mobilité de l'ennemi pour mieux protéger les populations civiles. Noëlla Muliwavio, présidente de la société civile du territoire de Beni.
L'ennemi est en mouvement. Mais nos FARDC sont intacts, ça cause aussi problème, car nos FARDC ne sont pas aussi en mouvement pendant que l'ennemi est en mouvement.
Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa annonce avoir procédé récemment aux opérations ciblées dans plusieurs communes de la ville. Dans un communiqué publié aujourd'hui à Kinshasa, la police indique que parmi les personnes interpellées, il y a plusieurs individus souffrant des démences ou des troubles mentaux. La police demande aux familles qui ont constaté la disparition des parents qui en souffrent de passer au commissariat provincial munis des pièces ou documents attestant que la personne recherchée est effectivement de leur famille. À défaut des documents ou pièces, la famille s'engagera par un acte écrit avant que la personne ne soit libérée. Aucune somme d'argent ne sera exigée, conclut ce communiqué signé par le commissaire provincial, le général Kasongo Kitenge Silvano. Retour au Nord Kivu. Le gouverneur Karline Nzanzu-Kassivita, visé par une motion de défiance, elle a été introduite hier par une dizaine de députés au bureau de l'Assemblée provinciale. Selon des sources du bureau, une plénière pour débattre de cette motion vient d'être convoquée pour le samedi 19 décembre 2020. Décision prise par le bureau de l'Assemblée provinciale à l'issue de sa réunion hier soir à Goma. Bernard Denyangi.
C'est dans un document de 11 pages déposé mercredi au bureau de l'Assemblée provinciale que 12 députés s'attaquent particulièrement au programme du gouverneur Karline Nzanzu-Kassivita, décliné lors de son investiture en juin 2019. Pour le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, le gouverneur devrait être notifié dans les délais avant la plénière prévue ce samedi. Le député Romain Kaouroua.
La motion sera débattue le samedi devant tous les honorables députés pour sa réception ou soit sa non-réception. Nos textes du règlement intérieur prévoient que, après la réception de la motion par le bureau, la transmission à qui de droit doit se faire après 24 heures. Après 48 heures, les discussions peuvent se poursuivre dans la plénière.
Précisons que ces députés motionnaires, parmi lesquels Alexis Baunga, Prince Kiangi et Kakule Sasita, reprochent au gouverneur, entre autres, la mauvaise gestion de la province, le manque du leadership et la non-appropriation de la vision du chef de l'État. Félix Tshisekedi, au Nord Kivu, Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le Nigeria a rouvert mercredi des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin, le Niger. Les autorités d'Abuja l'ont annoncé durant l'après-midi. En effet, le Nigeria avait fermé ses frontières en août 2019 officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette annonce avec effet immédiat, très vite relayé par la présidence depuis Abuja. Les autres frontières rouvriront d'ici la fin de l'année, explique la même source. Et puis, le président français Emmanuel Macron, testé positif au coronavirus, annonce l'Élysée dans un communiqué ce jeudi. Ce diagnostic a été établi suite à un test réalisé dès l'apparition des premiers symptômes, ajoute la présidence. Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la France s'isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance.
L'invité.
Elle nous vient du Nord Kivu, c'est une femme. Des femmes de Butembo et Lubero, membres des partis politiques et de la société civile, ont été outillées en début de semaine à Butembo sur la gouvernance participative. Cet atelier des 2 jours a été organisé par la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Objectif, initier les femmes à participer à la gouvernance de leurs entités respectives. Maître Cathy Fora est cadre de cette synergie. Elle s'entretient avec Florida Kahambo.
Maître Cathy Fourara, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous un peu de l'atelier de formation qui a été organisé sur la gouvernance participative en faveur de femmes membres de la société civile et des partis politiques des Boutembo libéraux.
Dans le souci de poursuivre avec les actions des 16 jours d'activisme, la synergie a trouvé nécessaire de réunir les femmes pour leur parler de la question de la gouvernance, parce que pour lutter contre les violences basées sur le genre, participer aux instances décisionnelles serait l'une des solutions à cette thématique et à cette dynamique. Ainsi, dans le souci vraiment d'atteindre les objectifs de oranger le monde et de former les femmes, de les aider à collecter les informations mais aussi à collecter les moyens, il faut les munir de beaucoup d'informations dans tout le secteur. Celles qui sont dans le parti politique, celles qui sont dans la société civile, celles qui sont dans le secteur administratif, ils doivent être informés sur les droits et les obligations mais aussi sur les opportunités et les avantages et les chances qu'elles peuvent avoir pour que les violences puissent cesser. C'est ainsi que dans le cadre de cet atelier, la Synergie a pensé axer ses activités dans les actions de la gouvernance participative. Et l'objectif principal a été celui de former les femmes leaders qui sont dans le parti politique, mais aussi les leaders au sein de la société civile, à savoir avoir des informations sur la gouvernance participative. Une façon d'accroître l'intérêt de ces femmes à participer dans les instances décisionnelles au niveau local, au niveau provincial et au niveau national, mais aussi initier les femmes de partis politiques, mais aussi de la société civile, à la culture de la redevabilité. C'est pourquoi il y a eu des thèmes qui ont parlé vraiment de l'élaboration du budget participatif, mais aussi de l'élaboration même des budgets au sein de leurs organisations respectives, pour celles des partis politiques et pour celles des sociétés civiles, à savoir déjà se cultiver, se mettre en application dans le cadre de la redevabilité. C'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre les antivaleurs, c'est le souci de la transparence, le souci de la démocratie et les soucis vraiment de valeurs positives qui soient reconnues. Et donc, cette activité arrive à point nommé pour réveiller les membres de la communauté, surtout les femmes, à savoir prendre d'abord les choses en main pour exiger maintenant que les homologues qui les entourent puissent faire de même en toute égalité et en toute bonne gouvernance.
Alors, par rapport au thème dont les participantes ont été bénéficiaires, quelles sont vos attentes vis-à-vis d'elles?
Nous attendons que les femmes qui ont eu l'opportunité de participer à cette activité puissent vraiment avoir des connaissances nécessaires pour soutenir leurs intérêts et leurs engagements politiques. Et nous voulons aussi que les femmes qui ont pris part à ces assises puissent prendre des initiatives visant à accéder aux postes décisionnels dans leur parti politique, mais aussi dans leur structure, si elles sont de la société civile. Mais aussi, nous voulons que les femmes soient mieux représentées dans les organes d'élaboration des budgets participatifs au niveau des ETD, donc au niveau des entités territoriales décentralisée, mais aussi au niveau de leur parti politique.
Après cet atelier, quelle activité va suivre?
Il y a des actions de plaidoyer, parce que les participants ont présenté beaucoup de difficultés. Il y a des actions de plaidoyer qui vont être organisées dans l'année 2021 où il faut que dans les assises de prise de décision, on puisse réfléchir sur l'appui aux femmes qui ont des ambitions de participer aux instances décisionnelles à accéder au financement aux subventions de l'État, parce que c'est déjà un droit dans la loi de 2008 qui parle de financement de partis politiques. Il y a ces droits-là et les femmes ont l'opportunité d'accéder à ces fonds pour qu'elles puissent vraiment faire connaître leurs ambitions et qu'elles puissent se faire élire dans l'avenir. Et il y a aussi les activités qui vont suivre, ce sont les activités de planification qui vont se faire à des paliers différents, donc selon qu'on est au niveau local et au niveau provincial, pour qu'à un moment donné, on fasse des plans quinquennales qui vont être suivis selon que les femmes vont commencer d'abord à observer, selon qu'elles vont réaliser des actions et selon que on va les évaluer et voir quelle perspective pour l'avenir. Et la finalité, c'est d'avoir les femmes que nous devons propulser, les femmes qui doivent être soutenues pendant les élections, les femmes qui doivent être soutenues dans le poste de recrutement, les femmes qui doivent être orientées là où il y a le besoin de la participation pour que leurs compétences ne puissent pas être ignorées et que les femmes puissent se munir de beaucoup de confiance et de beaucoup d'optimisme, parce que c'est aussi dans le cadre du message de ces jours d'activisme.
Voilà, Maître Cathy Fourra, nous vous remercions.
Merci, madame.
Maître Cathy Fourra est cadre de la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Elle intervenait à partir de Boutembo avec Florida Kahambu. Par ici, nous mettons un terme à ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivuita, sous la supervision de Ben Kabamba, la mise en onde de Jean-Noël Mokondo et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Radio Kapi.